France Info.
Bonsoir, mais que faisait donc Monsieur Ben Ala au Tchad? La révélation par le journal Le Monde de sa présence à N'Djamena 3 semaines avant le président Emmanuel Macron sème le trouble. L'ancien collaborateur du chef de l'État qui aura fait tanguer la présidence durant tout l'été se défend aujourd'hui d'être un quelconque émissaire de l'Élysée. Ironie de l'histoire, cette péripétie est mise sur la place publique au moment où le président présente ses vœux de Noël en soutien aux armées enregistrées au Tchad. Cette fin d'année se termine par un bilan économique inquiétant, consécutif à une crise de plus d'un mois, loin d'être achevée. La facture s'annonce salée. Alors que les Gilets jaunes annoncent la poursuite de leur mouvement et que la pétition contre l'État accusé d'inaction climatique cartonne, eh bien la majorité, vous le verrez, mise gros sur le débat national prévu en janvier. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Caroline Hardy.
Bonsoir.
Et bienvenue, vous êtes directrice conseil chez Tilder. À mes côtés, Christophe Gascard. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Ravi de vous avoir, journaliste présentateur sur France Info, c'est la même famille, hein, c'est le canal 27. Avec nous, notre partenaire Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Co-fondateur et directeur d'Atlantico.fr. Et le retour ce soir de Thomas Clé. Bonsoir Thomas, bienvenue.
Bonsoir Jean-François.
Professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1, s'il vous plaît. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et justement sur le canal 27 de la TNT. Il vous avait manqué, revoilà donc Alexandre Ben Ala qui se rappelle de façon inopinée au bon souvenir de la République. Alors l'ancien chef adjoint de cabinet Emmanuel Macron, je résume, hein, a publié un communiqué à l'AFP ce matin pour affirmer que son récent déplacement au Tchad n'avait aucun lien avec l'Élysée. C'est le journal Le Monde qui a révélé lundi qu'Alexandre Ben Ala s'était rendu à N'Djamena à la tête d'une petite délégation pour affaires, 3 semaines avant le chef de l'État venu réveillonner avec les soldats français de Barkhane. Il n'est pas un émissaire officiel ou officieux de la présidence de la République. S'il se présentait comme tel, il est dans le faux, avait réagi mardi l'Élysée auprès de la même agence France Presse. Commentaire qui a ulcéré l'ex-collaborateur du chef de l'État qui a parlé de propos diffamatoires. Voilà donc un jeton de plus dans la machine pour Éric Coquerel, interrogé sur cette nouvelle aventure. Il y a 2 poids 2 mesures, le député de la France Insoumise sur LCI.
Lundi, il y a des gens qui sont passés en comparution directe des manifestants des Gilets jaunes, d'accord ? Je connais notamment un jeune couple de 20 ans qui a pris 6 mois de prison avec sursis, 3 mois d'interdiction civique, familiale, etc. Et là, je vois quelqu'un qui est mis en examen, je ne sais plus à combien de mises en examen il a, hein, plusieurs, et qui se retrouve au Tchad en train de négocier des affaires avec des sommités africains. Je me dis que déjà, il y a 2 poids 2 mesures. Comment ça se fait que ce personnage peut faire tout ça avec les accusations qui sont sur lui ? Déjà, c'est une question que je pose. Et j'allais dire qu'un jour, j'aimerais bien connaître la vérité.
Alors Christophe Gascard, tout d'abord, est-ce que c'est pour vous un nouvel épisode ou c'est un pur concours de circonstances ?
C'est surtout, selon moi, une sorte de chewing-gum qui colle à la botte d'Emmanuel Macron et ça tombe au plus mauvais moment. On s'en souvient, hein, Ben Ala, c'était donc cet été. C'est un peu le curseur, hein, pour nous journalistes au moment où finalement la présidence de la République a commencé un peu à vaciller. C'est là où les affaires ont commencé à déballer. On a eu finalement cette audition au Sénat, ouais. on l'a beaucoup vu. Et puis ensuite les Gilets jaunes. Là, on n'en a plus du tout entendu parler pendant, on va dire, 6 semaines. Voire 2 mois, et là il revient au plus mauvais moment. Ce que je peux dire, c'est que pour l'opposition, c'est le cadeau idéal, c'est le cadeau de Noël idéal. Pour l'Élysée, ça va être compliqué parce que effectivement, ils espéraient avoir cette trêve des confiseurs et Ben Ala arrive finalement au plus mauvais moment. Et
Thomas Clé, ce monsieur a le droit de faire des affaires ?
Bah, il me semble qu'il faut qu'on le laisse tranquille. Alors, de deux choses l'une, soit c'est effectivement un relent de la France-Afrique, et quand on parle de déplacement en Afrique, surtout dans les pays qui ont été sous l'influence française, on a effectivement le mythe de la France-Afrique qui résonne à nos oreilles, et si c'est le cas, ça doit être absolument condamné. Mais si c'est pas le cas, Monsieur Ben Ala se trouve dans la situation de n'importe quelle personne. Faudrait l'apprendre à Monsieur Coquerel, d'ailleurs, qui manifestement ne connaît pas les règles de droit. Il se trouve dans n'importe quelle personne qui a un contrôle judiciaire. Et s'il a un contrôle judiciaire, il doit respecter les règles de son contrôle judiciaire. Il va rendre des comptes à la justice. Il va être peut-être condamné.
Il peut se déplacer.
Mais en l'état, il faut le laisser faire. Il faut le laisser vivre.
Ouais.
Et ça vaut pour lui comme pour n'importe qui d'autre. Il ne faut pas les empêcher de travailler, ces gens-là. Déjà, le fait d'être insistent stigmatisé, d'avoir un comportement qui manifestement en cours des sanctions pénales ne doit pas aller au-delà, les empêcher de travailler. Et ça me permet, si vous me permettez ce rapprochement qui est tout à fait peut-être iconoclaste, ça me permet de le rapprocher d'une information relativement récente qui concerne Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, c'est la même chose, il a été condamné à un certain nombre de peines assez de peines, pas à davantage.
Oui, empêcher pourquoi d'exercer les, la médecine.
Pourquoi aller à la mort civile de ces gens-là? Ça me semble excessif.
Caroline Hardy, c'est excessif pour Thomas Clay, mais Christophe Gascard dit ça tombe mal, et vous?
Je pense que oui, c'est un mauvais concours de circonstances pour Emmanuel Macron. Dans l'affaire Benalla, en effet, lui colle à la chaussure, on est dans un mauvais timing. Lui-même, je pense, de toute façon, l'a exprimé très clairement. Il a tout à fait le droit de pouvoir envisager ce qu'est sa nouvelle vie professionnelle. Il a des activités de consultant en matière de sécurité, de diplomatie, des affaires internationales. Le fait est que pour lui, il joue un petit peu sur les deux tableaux. Les deux parties savent beaucoup de choses sur l'une et l'autre. Emmanuel Macron a raison quand même de sécuriser sa communication. Benalla, de son côté, assume clairement aussi quelles sont ses activités et il revendique le droit de les exercer, c'est normal.
Alors justement, Jean-Sébastien Ferjou, il devrait se planquer, ce monsieur, ou pas ?
Non, mais je comprends ce que dit Thomas Clay, je suis d'accord même sur le fait qu'il ne faille pas empêcher les gens de travailler. Maintenant, connaissez-vous beaucoup de jeunes hommes de 28 ans qui se retrouvent à fréquenter des palais présidentiels à l'étranger après avoir été licenciés 2-3 mois plus tôt pour faute grave? Donc, la question n'est pas en soi que juridiquement il ait le droit ou pas. Évidemment qu'il a le droit d'y aller. La question qui se pose est celle d'un éventuel mélange des genres, puisque on voit bien que pour les chefs d'État africains qui le reçoivent, ou pour la délégation étrangère, parce qu'on parle d'une délégation étrangère qui a éprouvé le besoin de prendre Alexandre Benalla comme consultant, c'est quand même parce que c'était le Alexandre Benalla proche d'Emmanuel Macron et pas juste un monsieur X venu de nulle part. Donc oui, effectivement, ça tombe très mal pour Emmanuel Macron, mais je pense que c'est très révélateur de c'est le syndrome des enfants gâtés. Ça ne se serait pas produit avec des générations précédentes, parce que les gens auraient su quand même maintenir des distances sur un certain nombre de choses. Ce qui est arrivé pour lui, lui est arrivé, c'est un fait. Il y a un coup parfois, être proche du pouvoir, il faut savoir aussi l'assumer, c'est ça qui sait préserver les démocraties.
Allez, on va répondre là-dessus dans un instant, on va poursuivre sur cette lancée pour l'instant, 20h10 tout de même sur France Info, le rappel de l'info avec vous Thomas Bénèche.
Plusieurs figures des Gilets jaunes dénoncent des atteintes à leur dignité, à leur liberté de circuler lors des différentes manifestations. Elles appellent tous ceux qui ont pu en être victimes à se manifester en vue d'actions judiciaires. Elles le disent dans un communiqué publié ce soir. Le président de la Confédération des commerçants indépendants de France plaide pour un coup d'envoi anticipé des soldes le 2 ou 3 janvier au lieu du 9 dans la plupart des départements de l'Hexagone. Il l'a fait savoir au gouvernement, l'idée de donner un coup de pouce aux commerçants touchés par la crise des Gilets jaunes. Les deux hommes interpellés ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle sont libres, ils ne seront pas poursuivis. Ce matin, ils ont semé la panique après que l'un d'eux a sorti un FAMAS factice, un fusil à billes qu'il portait pour Noël. L'arme a provoqué un mouvement de panique pendant 3 quarts d'heure. En Tunisie, le ministère de l'Intérieur indique avoir arrêté une personne soupçonnée d'avoir aidé un journaliste à s'immoler par le feu lundi à Kasserine. Pigiste pour une chaîne privée, il souhaitait dénoncer par son geste les mauvaises conditions de vie dans cette région la plus pauvre du pays.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous poursuivons avec vous, Thomas Clay. Alexandre Benalla, trop jeune peut-être pour soudain, ou du moins trop récent pour qu'il soit dans un jet avec une équipe pour aller faire des affaires en Afrique.
Je ne suis pas en désaccord avec ce qu'a dit Jean-Sébastien Ferjou, mais c'est vrai que s'il a 26 ans et se retrouve dans des palais présidentiels étrangers, il a d'abord été à 26 ans dans le palais présidentiel français. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Et incontestablement, alors ne serait-ce cette espèce de goût, cette appétence pour le coup de poing ou pour la violence, moi je ne le connais pas, Alexandre Benalla, mais je trouve que ce qu'on a vu après la faire montre quelqu'un quand même de extrêmement intelligent, extrêmement talentueux. Je parle là des interviews qu'il a données, aussi bien aux 20h de TF1, au Monde, au JDD, ou surtout
les auditions.
Son audition au Sénat, où on a trouvé quand même c'est quelqu'un manifestement d'hors norme. Alors que des investisseurs étrangers essaient de s'attacher ses services parce qu'effectivement il a forcément noué des réseaux quand il était à l'Élysée, mais il s'est retrouvé aussi à l'Élysée pas par hasard parce qu'il avait manifestement des talents et on l'a bien vu d'ailleurs.
Ceci explique cela pour vous. Oui.
Voilà. Oui. Et puis ce qu'il a dit ce soir, c'est en réponse, c'est qu'il a accompagné une délégation qui veut investir 250 millions d'euros, créer 3 000 emplois au Tchad. Bon, qu'on le laisse faire. Il va rendre des comptes sur ce qu'il a fait.
Il a aussi dit autre chose. Il a dit que les propos de la présidente ou des proches d'Emmanuel Macron seraient diffamatoires. Oui. Donc, où est la diffamation?
Non,
c'est-à-dire que l'Élysée dément qu'il est peut-être un émissaire officiel ou officieux.
C'est parce que l'Élysée émet quelques doutes dans la formulation qui a été faite auprès de l'Agence France-Presse.
Parce que la réalité, c'est que il y a des doutes sur la nature des activités de M. Benalla.
Encore une fois, je ne le connais pas. Mais la diffamation, c'était sur le fait qu'il aurait commencé à nouer des contacts commerciaux du temps où il était à l'Élysée. C'est ça qui lui a été reproché aujourd'hui par des indiscrets ou des rumeurs qui venaient de l'Élysée lui-même, où manifestement, c'est vrai, il n'a pas conservé que des amis.
Christophe Gascard, est-ce que les médias doivent lâcher un petit peu, si je puis dire, Alexandre Benalla?
Au-delà de l'âge dont vous parlez...
Ce qu'on ne fait pas ce soir.
Voilà, mais vous parliez de 25 ans ou 26 ans, peu importe l'âge, en fait, pour moi. C'est pas tant la question. Emmanuel Macron a accédé à l'Élysée à moins de 40 ans, c'est aussi... C'est pas la question pour moi, l'âge. La question, c'est effectivement pourquoi l'affaire, elle ressort en même temps. Il y a forcément un timing qui est calculé. Certains savaient très bien qu'il était allé au Tchad il y a 3 semaines. Pourquoi on n'a pas eu l'information finalement le lendemain ou au retour du Tchad? On a attendu que le président aille sur place, que le Monde sorte l'info pile entre Noël et Nouvel An. Effectivement, le timing, il n'est pas pour rien. À qui ça profite? À qui profite le crime? Moi, personnellement, j'ai pas la réponse.
Alors, on a peut-être pas encore la réponse. Il faut attendre une forme de décantation, comme à chaque fois. Caroline Hardy, vous qui faites du conseil, qui observez un petit peu la communication en général, tous azimuts, cette séquence arrive au moment où les gilets jaunes font un petit peu relâche pour le réveillon, et ça vient boucler une année six mois terribles finalement.
Le fait est qu'on ça réassure le fait que la parole présidentielle n'a plus beaucoup de crédibilité. On l'a vu dans l'épisode des gilets jaunes, et là, quand vous voyez aujourd'hui le communiqué qui a sorti la présidence de la République. De toute façon, maintenant, il y a une suspicion qui est diffuse, qui est complètement installée. Et peu importe là ce que aura beau répondre Emmanuel Macron sur l'affaire Benalla, le fait est que pour l'instant, ça lui profite plus à lui qu'à l'Élysée.
Un certain nombre de personnes haut placées, y compris certains ayant quitté leur ministère, se posaient des questions sur non pas la nature des liens de M. Benalla avec le président de la République, mais sur la nature exacte de ses activités, de ses attributions et jusqu'où il pouvait aller. Et les questions, moi, je n'ai absolument pas la réponse. Je constate juste qu'au plus haut sommet de l'État, un certain nombre de gens se posent les questions précisément sur est-ce que tout est bien transparent, est-ce que tout est bien éthique dans ce qui se passe avec M. Benalla. Donc c'est effectivement pas une question d'âge, je ne parlais d'âge que pour dire par rapport à n'importe quel autre chômeur dans la même situation, il est rare de se retrouver 2 mois plus tard dans des palais présidentiels à négocier des contrats pouvant rapporter des commissions se chiffrant vraisemblablement sur des montants...
un peu compressé, un peu court quoi.
Mais je trouve en tout cas qu'il justifie que des questions soient posées et que si l'affaire est sortie, vous le disiez, c'est bien parce que d'autres se sont aussi posé la question.
Parce qu'il y a le voyage du président de la République dans le même pays 3 semaines plus tard. Et on se demande s'il n'est pas l'émissaire du président de la République, préparer le terrain. Est-ce que Benalla ne serait pas à Macron ce que Guéant était à Sarkozy? Celui qui précède, je pense à la Libye, le voyage, c'est ça un peu, je pense, dans l'imaginaire.
Alexandre Guéant avait des fonctions officielles à l'Élysée.
Mais lui aussi, il était chef de cabinet adjoint.
Caroline Hardy. Il
a quand même réaffirmé que l'Élysée lui mettait des bâtons dans les roues pour monter ses projets. Donc ça, c'est quand même pas anodin.
Alors justement, Emmanuel Macron a dû, nous l'imaginons, apprécier le moment. Le chef de l'État, quand il s'est rendu au Tchad, avait convié Michel Drucker pour l'enregistrement d'un message de soutien aux armées en OPEX, en opération spéciale, diffusé hier soir sur France 2 dans le cadre de Noël avec nos soldats. Extrait.
Vous profitez d'un moment innocent, heureux, en famille. Et c'est bien ainsi. Mais ce moment est possible parce que en France et partout dans le monde, d'autres de nos compatriotes nous défendent, vous protègent, nos soldats, leurs familles, nos blessés et nos disparus. Parce que face au danger auquel nous sommes confrontés, face à la menace qui est permanente, ils ont choisi de s'engager. Ils sont là. Et grâce à eux, nous sommes heureux, en sécurité. Et vous êtes en famille.
Christophe Gascard, il y a évidemment et éminemment le nécessaire message en soutien à nos troupes, hein, le dispositif Barkhane qui affronte des situations difficiles. Franchement, le chef de l'État se serait bien passé de ce parasitage, finalement. Vous le disiez tout à l'heure, c'est oui, ça tombe suprêmement mal.
Il y a le temps politique et puis il y a le temps médiatique. Après, ce qui,
il est toujours rattrapé. Vient, hein,
oui, et c'est un peu le problème d'Emmanuel Macron jusqu'à présent. Il était le maître des horloges, en tout cas, il se revendiquait comme le maître des horloges. Et là, on le sent, hein, depuis le mois d'août. Hein. Moi, je travaillais cet été, justement, sur l'affaire Benalla. On l'a senti, c'est-à-dire que le maître des horloges a été finalement rattrapé par ses horloges et il a du mal à maîtriser ce temps. Là, c'est un temps important pour le chef de l'État. C'est une manière d'assurer sa stature. Le chef de l'État, il va voir effectivement les militaires qui sont engagés sur différentes opérations. Il montre à la fois son autorité morale. L'affaire du Monde, en tout cas les révélations dans le Monde, qui arrivent. C'est compliqué et effectivement, moi je me pose toujours cette question et elle est évidente, mais je ne sais pas de qui. Il y a forcément une volonté derrière qui donne ces informations au Monde. Pourquoi c'est révélé maintenant? Pourquoi c'était pas il y a deux semaines? Je pense que c'est tout ça aussi qui permet de comprendre le comment du pourquoi.
Ah, ça sort le lundi, effectivement, quelques deux semaines et demie plus tard. Thomas Clay, ça vous fait sourire, vous?
Non, mais bon, je pense que vous savez de quoi vous parlez, et puis on arrive à sourcer assez facilement d'où ça vient. Simplement, au fond, je me disais, dans une vision optimiste des choses pour la Macronie, puisqu'on est en période de vœux, et si c'était finalement la fin de la parenthèse des six mois tragiques, commencés par Benalla, finis par Benalla.
Le clap de fin, c'est ça.
Le clap de fin, les gilets jaunes, Hulot, Colomb, tout ce qu'on a connu en cet automne et en cet hiver. Finalement, ça commence avec Benalla, ça finit avec Benalla. C'est peut-être ce dont rêve la Macronie.
Jean-Sébastien Ferjou, un clap de fin peut-être, une espèce d'effet de souffle pour passer à autre chose? C'est ce que dit Thomas Clay.
Je pense que c'est un épiphénomène et que la réalité sociale et économique à laquelle est confronté Emmanuel Macron dépasse de très loin toutes les affaires Benalla. Et du reste, la vraie fragilité du quinquennat, elle était là largement. Peut-être que les journalistes ont commencé à s'y intéresser à ce moment-là, mais elle était là largement avant le mois de juillet dernier. Ça se voyait dans les enquêtes d'opinion. Quand vous regardiez les qualitatifs, vous savez pas juste les quantitatifs où vous avez la popularité en chiffres bruts, mais quand vous voyez les qualificatifs utilisé, ça faisait déjà des mois que les gens qui avaient une mauvaise image d'Emmanuel Macron l'avaient pour des raisons qui devenaient toujours de plus en plus dures. Et la question de l'injustice de sa politique économique, même chose, elle est présente dans les enquêtes d'opinion depuis bien avant. Donc peut-être que ça n'intéressait pas beaucoup de gens parce qu'il y avait un effet magie qu'avait réussi à créer Emmanuel Macron, mais c'était quand même plus de la poudre aux yeux que de la réalité.
Alors justement, de l'économie et du bilan de cette année à l'aune de ce qui s'est produit depuis plusieurs semaines, on va en parler dans un instant à 20h20 sur France Info, juste après ce rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Le ministère des Transports donne rendez-vous début janvier aux transporteurs routiers. Objectif de cette entrevue annoncée aujourd'hui, lister les difficultés économiques rencontrées par la profession depuis le lancement du mouvement des Gilets jaunes. Le syndicat FNTR évoque un préjudice de 2 milliards d'euros. Des peines allant jusqu'à un an de prison pour 4 personnes soupçonnées de violence sur le directeur de la police dans la Drôme. C'était lors d'une manifestation de Gilets jaunes le 8 décembre dernier. Ce commissaire divisionnaire avait été roué de coups au sol. Le sexisme d'où qu'il vienne est une plaie, écrit sur Twitter la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa. Réaction après ce tweet sexiste adressé dimanche dernier par un député de la majorité à une sénatrice écologiste. Le délégué général d'LREM va envoyer un courrier d'avertissement à l'élu mis en cause. Les secouristes en difficulté aujourd'hui en Indonésie. Ils doivent faire face à des pluies diluviennes qui gênent leur travail d'aide aux survivants du tsunami qui a frappé le pays dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Selon un dernier bilan, l'événement a fait 430 morts, près de 1500 disparus.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Les Échos ont titré choc majeur ce matin. Selon la Banque de France, eh bien, la facture d'un mois et plus de mouvement des Gilets jaunes va coûter 0,2 points de PIB cette année. C'est une perte de richesse, allez, comprise selon les estimations diverses et variées entre 2,2 et 2,4 milliards d'euros. La France est-elle aujourd'hui en panne? Parmi les secteurs qui ont le plus souffert, les transports, le tourisme et le commerce, surtout l'indépendant, la perte est estimée à 25% selon le président de la Confédération des commerçants de France qui était en direct sur France Info ce matin.
La moyenne sur le mois de décembre jusqu'à hier, avant-hier, on peut l'estimer à 25%. 25% de moins pour des très petites entreprises, c'est énorme. Ça ne fait pas plaisir de le rappeler, mais ça nous replace dans le contexte que nous avons vécu assez récemment avec les attentats, les conséquences des attentats.
Caroline Hardy, facture salée, hein.
Facture très salée, mais je pense qu'il faut pouvoir nuancer quand même notre propos sur la catastrophe économique. Je dirais qu'il y a le temps de l'impact immédiat qui concerne finalement l'économie du quotidien. On l'a bien vu avec là les pertes qui concernent l'hôtellerie, les pertes qui concernent la grande distribution, c'est sûr, c'est catastrophique. C'est d'ailleurs le propos de Bruno Le Maire qui lui-même essayait d'ailleurs de reporter la responsabilité de cette catastrophe économique sur les gilets jaunes directement. Et puis il y a le temps finalement qui peut nous rassurer davantage, qui est sur le long terme. Quel est l'impact finalement des gilets jaunes sur notre croissance, si on en croit même par exemple Business France qui rassurait quand même notre sphère économique, puisque les investisseurs, eux, pour l'instant, ont une vue qui se veut être à long terme. Ils ont de toute façon à cœur que Emmanuel Macron poursuive ses réformes, ils le disent très clairement. Donc de toute façon, Emmanuel Macron n'a pas dit son dernier mot, il n'a pas du tout abdiqué sur le sujet et il est encore dans une logique de séduction vis-à-vis des investisseurs. Maintenant, d'ailleurs, les invitations, je crois, sont parties tout récemment pour Choose France qui aura lieu le 21 janvier. Donc il y a le temps de l'impact économique immédiat qui certes est assez dramatique. On a quand même plus de 40 000 Français qui sont au chômage technique. Donc oui, il y a un impact. Maintenant, relativisons, voyons à moyen long terme l'impact des gilets jaunes. C'est un deuxième temps d'analyse qu'il faut avoir, je pense.
Alors Christophe Gascard, justement, est-ce que c'est un message qui peut passer auprès des personnes qui souffrent et qui se mobilisent? Attention, il y a danger économique potentiel.
Il y a ceux qui souffrent et effectivement ils sont là. Il y a ceux qui manifestent, les gilets jaunes, et moi, pour être allé sur certains barrages, c'est pas forcément les mêmes. Il y en a qui souffrent, qui ont pas forcément mis un gilet jaune et qui ont soutenu ce mouvement. Ce qui est certain, c'est qu'ils attendent aujourd'hui de voir sur leur fiche de paye si ce fameux pouvoir d'achat va pouvoir finalement se raviver et si la fiche de paye va être meilleure en janvier. Moi, ce qui m'interroge, et on en a pas forcément beaucoup parlé, c'est cette fiche de paye de janvier qui va forcément être un petit peu rabotée. Alors c'est psychologique parce que normalement à partir de janvier on aura effectivement cette déduction.
Si c'est bien fait, logiquement c'est voilà. Réglo. Hein, donc
sauf, mais, bien sûr, mais, sauf que si psychologiquement il y a quand même un effet qui fait que sa fiche de paye est forcément, alors même si la moitié des Français ne payent pas forcément des impôts, donc ça ne se verra pas pour tout le monde. Néanmoins, et moi je l'ai constaté vraiment sur les barrages, ils ont vraiment besoin de voir sur leur fiche de paye ces euros. Hein, ils sont, pour certains, c'est à 10 euros ou 20 euros près. Il y a vraiment effectivement une volonté de voir le pouvoir d'achat s'accroître. Et effectivement, ouais. Et Emmanuel Macron a fait tout ce qu'il fallait avant justement les fêtes de Noël pour faire passer un maximum de lois à l'Assemblée, au Sénat, très rapidement.
Ça va être l'effet double lame pour vous, cette histoire de fiche de paye.
Je suis assez interrogatif. Donc je pense que les 15 prochains jours après le 1er janvier vont être assez déterminants sur le mouvement. Est-ce qu'on va avoir un acte 7 ou pas, le 31 janvier, le 31 décembre aussi, va être vraiment à surveiller.
Alors Thomas Clay, le responsable que nous avons entendu tout à l'heure, réclame d'avancer les soldes qui sont prévus le 9 janvier.
Au 2 janvier.
On parle de pertes sèches dans la grande distribution aussi. Il y a des chiffres, il est question de 700 millions d'euros dans les grandes surfaces alimentaires, 2 milliards pour l'ensemble de la grande distribution. On a, je crois, un pape qui nous a parlé de fin
du consumérisme. Le rapprochement entre le consumérisme.
De fin du consumérisme, Thomas Clay.
Je ne sais pas si le pape s'adressait prioritairement aux gilets jaunes. Ce serait peut-être leur donner une importance qu'ils n'ont pas eue. Mais au fond, cette conséquence économique du mouvement des gilets jaunes, on le savait. Quand on occupe les Champs-Élysées cinq samedis de suite en plein mois de décembre, on se doute bien qu'il va y avoir une conséquence économique. C'était aussi une manière de dire, pour eux, en tout cas pour ceux qui protestaient, au fond, peu importe, on est là pour des revendications qui dépassent le cadre actuel et qui ils sont beaucoup, beaucoup plus profondes et qui sont sincères. Mais après, il y a eu tous ces débordements qui n'avaient plus, à mon avis, plus rien à voir avec les gilets jaunes, et les images de samedi dernier étaient effrayantes. Tout ça crée effectivement un contexte qui est économiquement pas très propice. C'est sûr que les hôtels qui sont actuellement sur les Champs-Élysées, il faut être très très volontaire aux militants pour aller y réserver une chambre.
Jean-Sébastien Ferjou, il y a un risque réel au niveau économique ou pas?
Ah non, mais la présentation qui est faite des choses est parfaitement délirante. Enfin, il faut quand même regarder le montant du PIB en France, qui est un impact économique des gilets jaunes. Personne ne peut le contester, c'est ce que vous disiez, sur l'économie du quotidien. Outre le fait qu'il peut y avoir un effet de rattrapage, comme souvent dans ce genre de conflits sociaux. Bon, après, pour les hôtels ou pour de la restauration, effectivement. Mais si l'économie française...
C'est vrai que les 10 milliards devraient booster la consommation.
Non, mais si l'économie française ne tenait que aux hôtels entourant les Champs-Élysées ou aux 4 samedis précédents, précédant la fin de l'année, on serait vraiment un pays dans une très sale situation. Non, mais il faut être un peu sérieux. Il faut regarder la croissance dans la zone euro, la croissance mondiale, les frictions commerciales entre la Chine et l'Allemagne, et les États-Unis par exemple, pèsent fortement sur les exportations européennes à l'heure actuelle.
Donc pour vous, c'est un peu.
Non, mais la croissance française, elle était déjà. Non, mais c'est une présentation, je vous dis, qui est tendancieuse, enfin, qui est fallacieuse. Il y a eu un impact effectif, concret, et les gens, les commerçants, etc., qui l'ont vécu, personne ne peut le contester, mais l'économie française va mal à cause de choix macroéconomiques et politiques faits par ce gouvernement et par l'Europe au sens large.
Allez, ce sera le mot de la fin de la première demi-heure des informés de France Info. Nous nous retrouvons dans quelques instants après la météo et le rappel de l'info.
L'Empire des séries avec Laurent Vallière.
On avait aimé Borgen, une série danoise qui racontait avec réalisme la conquête du pouvoir par une femme politique, avec au nom du père, le même réalisateur danois, Adam Price, nous fait pénétrer dans un autre univers, l'Église au Danemark et la religion. Une fascinante série en 10 épisodes autour d'une famille de pasteurs.
L'Empire des séries, du lundi au vendredi à 12h25, 16h25 et 19h55. France Info, 2 points, ouvrez l'info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com.
La météo avec les prévisions de Sébastien Léas pour Météo France.
Hormis quelques gouttes sous un ciel chargé entre la Bretagne, le Poitou-Charentes, le Lot-et-Garonne et les Landes, la journée de demain sera encore plutôt calme. Du nord-est au Lyonnais et à l'Auvergne et sur le midi toulousain, il faudra attendre la dissipation des grisailles matinales pour voir le soleil s'imposer dans un ciel voilé. Les hauteurs du relief profiteront de ce temps lumineux dès le lever du jour, mais par endroits, les nuages bas resteront bien en place l'après-midi, notamment dans le Val-de-Saône, voire en plaine d'Alsace. Autour de la Méditerranée, les entrées maritimes vont s'accumuler. La journée sera nuageuse entre le Roussillon, le Delta du Rhône et les côtes varoises. Sur le reste du pays, la journée se passera sous un soleil voilé, avec un voile plus dense au nord de la Loire. Côté température, il va encore faire froid cette nuit avec de fréquentes gelées. On attend par exemple moins 4 degrés à Reims et à Nancy et moins 1 degré à Paris, Tours, Lyon et Abbeville. Les maximales resteront globalement stationnaires. 3 degrés à Strasbourg et à Dijon, 4 degrés à Lille, 8 degrés pour Bourges, Rennes et Cherbourg, 11 degrés à Clermont-Ferrand et Agen, 13 degrés pour Montpellier et Biarritz et 15 degrés à Toulon.
France Info. 2 points, ouvrez l'info.
h30 sur France Info. Toute l'info avec vous. Bonsoir Émilie Dez.
Bonsoir Jean-François. Il est resté près de 40 minutes enseveli sous une avalanche. Un enfant de 12 ans a été retrouvé vivant après avoir été emporté par une coulée de neige alors qu'il venait de quitter une piste balisée de la station de la Plagne. C'est un chien des secouristes du peloton de gendarmerie qui l'a découvert. Il s'en tire avec une jambe cassée. Ils ont été durement touchés par le mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement prévoit de recevoir les routiers des janvier. L'idée est d'identifier les difficultés économiques rencontrées et les mesures qui peuvent être prises en soutien. La Fédération nationale des transporteurs routiers évoque des pertes de 2 milliards d'euros. L'exécutif veut aussi impliquer les routiers dans le grand débat national organisé en début d'année. Deux gilets jaunes franc-comtois sont mis en examen pour avoir vandalisé l'Arc de Triomphe le 1er décembre dernier. L'un d'eux est soupçonné d'avoir tagué les gilets jaunes triompheront sur l'un des piliers du monument parisien. Une information judiciaire est ouverte pour retrouver d'autres participants aux dégradations. C'est une victoire pour les défenseurs des droits. Après plusieurs refus, la justice ordonne finalement à la Belgique de rapatrier 6 enfants de djihadistes. Ils sont actuellement retenus avec leur mère dans un camp de réfugiés en Syrie, contrôlé par les Kurdes. Une décision à exécuter au plus vite, sous peine d'une amende de 5000 euros par jour et par enfant, Angélique Bouin.
Les plus grands sont âgés de 6 ans, les plus petits sont nés l'été dernier. Ils vivent avec leurs deux mères, deux jeunes belges âgées de 25 et 26 ans, toutes deux condamnées par défaut à des peines de prison. Elles étaient parties en Syrie avec leur mari, des combattants de l'organisation État islamique. La magistrate qui a pris cette décision a manifestement entendu les arguments de leur avocat. Les enfants sont selon lui très dénutris, en danger et sans liberté de mouvement dans ce camp de réfugiés contrôlé par les Kurdes. Elle donne 40 jours à l'État belge pour organiser leur rapatriement, leur fournir des papiers ainsi qu'à leur mère, le tout dans un cadre sécurisé. Elle ajoute que même si les mamans sont incarcérées, un contact restera possible. En référé, le tribunal de première instance de Bruxelles a donc pris le contre-pied de la cour d'appel qui avait rejeté cette requête cet été. Jusqu'à présent, la Belgique faisait valoir qu'elle n'a pas de représentant consulaire en Syrie pour agir. L'État belge doit pouvoir recourir au personnel diplomatique d'un autre État de l'Union, précise le jugement de ce matin.
Angélique Bouin, correspondante France Info à Bruxelles. Les prisons françaises ne désemplissent pas. Selon les derniers chiffres, plus de 71 000 personnes sont incarcérées dans notre pays et l'Observatoire international des prisons s'inquiète de leurs conditions de vie. Près de 1 500 détenus sont obligés de dormir par terre par manque de place. En deux jours, 6 bateaux de migrants ont été secourus au large du Pas-de-Calais. À leur bord, plus de 40 personnes originaires d'Irak, d'Iran et d'Afghanistan qui tentaient de rejoindre l'Angleterre. Allez, tout de suite, les informés, deuxième partie avec Jean-François Akili.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Akili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Caroline Hardy, directrice conseil chez Tilder, avec Christophe Gascard, mon complice de France Info, journaliste et présentateur sur le canal 27, hein, avec Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur d'Atlantico.fr, avec Thomas Clé, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1. Alors, une plaque de cuisson, selon le Parisien.fr, serait à l'origine de ce terrible incendie qui a fait 13 blessés mardi soir dans un immeuble de l'avenue du président Wilson à Saint-Denis, cette grande avenue qui remonte vers le Stade de France. Certains ont dû sauter dans le vide pour échapper aux flammes. Deux des victimes, dont une femme enceinte, sont dans un état jugé grave. Alors l'immeuble faisait l'objet d'un arrêté de péril sans ordre d'évacuation, rappelle Stéphane Peu, le député communiste de Seine-Saint-Denis, qui a réagi sur France Info, veut déposer à nouveau en janvier une proposition de loi pour mieux lutter contre les marchands de sommeil.
Il faut à tout prix avoir des procédures beaucoup plus efficaces et un droit français qui soit moins protecteur du droit de la propriété quand les droits de la personne humaine et les droits de l'homme sont en cause. Et donc c'est dans ce sens que je déposerai une proposition de loi. Il faut à tout prix que notre pays change de braquet, change de vitesse pour lutter contre l'insalubrité qui est un phénomène qui est en train de croître dans notre pays.
Caroline Hardy, j'ai envie de dire, comme d'habitude, il faut attendre des drames pour que ça avance.
Bien sûr qu'il faut lutter contre l'insalubrité, contre les bailleurs indignes, ça va de soi. Maintenant, il y a quand même un projet de loi qui a été voté cet automne, qui renforçait justement les mesures contre les marchands de sommeil. Donc attention à pas retomber dans ce mal français qui consiste à amplifier à chaque fois notre millefeuille législatif. Je pense au contraire qu'il y a plutôt maintenant un temps concret d'action au niveau local. Les maires ont aussi un rôle à jouer très concret dans cette problématique. Certains ont d'ailleurs déjà initié des démarches exemplaires. Je pense, et je le cite ce soir, au Blanc-Ménil, le maire a mis en place une campagne qui dénonce les bailleurs indignes sur le modèle d'un hashtag qui est « Balance ton marchand de sommeil ». Le principe du MeToo vaut également. Donc c'est une campagne très concrète qui a très bien fonctionné et qui devrait pouvoir être dupliquée dans plein de villes de France. On a quand même un arsenal législatif qui existe et qui fonctionne.
Mais ce sont quand même des initiatives, on va dire, assez isolé finalement. Est-ce que Christophe Gascard, il faut bousculer un petit peu plus le droit, le système chez nous pour essayer de faire avancer les choses, comme le dit ce député de Seine-Saint-Denis?
Non, moi je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est un problème, c'est l'arsenal législatif aujourd'hui, il existe, les politiques s'en sont emparées, grâce notamment à la Fondation Abbé Pierre qui, depuis il y a des années, faut quand même le répéter, alerte les autorités sur effectivement ces logements insalubres. Il y en aurait plus de 600 000 logements qui seraient considérés comme insalubres, exploités par des marchands de sommeil sur un parc qui compte environ 35 millions d'habitants. Ce qui est important, c'est de savoir que ce mal-logement, il existe depuis 40 ans et que les politiques, finalement, s'en sont emparés, on va dire, que ces 5-10 dernières années. Donc, ça demande du temps. Moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, l'arsenal législatif, il existe. Il faut le mettre en place. Après, on ne va pas résoudre le problème du jour au lendemain.
Oui, alors, Thomas Clé, je m'adresse au doyen de droit de la Sorbonne. Il y a trop de lois là-dessus. Il n'y en a pas assez. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Je vais répondre en mon nom. Le problème, ça a été dit, c'est pas un problème de loi. La loi, elle existe, elle est là. Le problème, c'est d'exécution de la loi. C'est les moyens de mise en œuvre de la loi. En Seine-Saint-Denis, on a 7,5% du parc qui est indigne. C'est le département de France où le taux d'indignité du logement est le plus élevé. Donc il faut faire en sorte que lorsqu'il y a un arrêté d'insalubrité qui est pris, ce qui était le cas dans l'immeuble en question, dès l'année 2000, il y a 18 ans, il puisse être exécuté. Or, il y a une mesure qui est prévue dans la loi qui permet à la collectivité d'avancer les travaux. Évidemment à charge de la collectivité, et ensuite de recouvrer les sommes avancées auprès des propriétaires. Ça se fait peu, ça se fait pas assez, parce qu'évidemment c'est toujours très difficile ensuite de recouvrer les sommes, mais lorsque on a des drames comme celui-ci, il faut prendre le risque financier d'avancer les travaux pour éviter que ces drames se reproduisent à l'infini.
Alors Jean-Sébastien Ferjou, pour poursuivre sur la même lancée, il faut un droit français moins protecteur, a dit donc Stéphane Peu, du droit de la propriété. Quand, je le cite, les droits de la personne humaine et les droits de l'homme sont en cause, est-ce que vous avez la sensation que le système, d'après ce que dit cet élu, protège un petit peu les propriétaires? Ça ne va pas assez vite à cause de ça? Il y aurait un frein là-dedans?
Non, ce sont les raisons financières qui étaient évoquées à l'instant. Un maire peut décider d'ordonner des travaux dans un immeuble qui est en péril. Donc je pense que c'est à l'inverse, parce que les droits des propriétaires sont trop entravés en France, qu'on a des problèmes non pas de marchands de sommeil en tant que tels, mais des problèmes de logement. Parce que le problème qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'on peut toujours regarder immeuble par immeuble, et ça a du sens d'un point de vue d'une mairie, où ça a du sens quand il y a des situations de danger immédiat. Mais si on raisonne au sens plus large, ce qui a encore plus de sens, c'est se poser la question de la crise du logement en France. Parce que ça n'est pas le cas partout. Il y a quand même des pays où ça se passe différemment. On peut agir sur la réglementation foncière, on peut agir sur la construction en hauteur, on peut agir sur la densité du bâti. Donc on a commencé à le faire un petit peu, mais c'est vrai que les lois, et notamment la loi qu'avait fait voter Cécile Duflot sur l'encadrement des loyers, etc., ne cessent de générer des effets complètement pervers. Parce que pour une bonne intention affichée, personne ne peut soutenir qu'ils se disent « on s'en fiche, il y a des pauvres qui habitent dans des logements...
Insalubre.
Personne ne va jamais soutenir ça. En revanche, il faut le regarder dans l'autre sens, et c'est précisément parce que l'investissement immobilier est déconsidéré dans ce pays. Regardez, même Emmanuel Macron a voulu maintenir l'IFI, ce qui a l'impôt sur la fortune, uniquement sur l'immobilier, au motif que ce serait une rente plutôt qu'un investissement productif. Mais justement, il faut pouvoir permettre plus d'investissement aussi sur le secteur du logement, parce que juste pour finir sur un petit raccourci politique, quand vous croisez la carte des situations où le logement est très tendu et la carte des votes populistes, ce sont les mêmes.
Allez, Caroline Hardy, encore un mot là-dessus. C'est un problème de finances publiques, au fond, au bout du voyage. Il faut que la puissance publique dispose des moyens pour avancer
et mais embrasser... Mais qu'elle laisse le privé
se
débrouiller.
Vous dites ça, Jean-Sébastien Ferjou. Qu'elle laisse le privé
intervenir. Et les collectivités locales.
Et les collectivités locales. Allez, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Éric Drouet à Priscilla Ludowski, plusieurs figures des Gilets jaunes dénoncent dans un communiqué publié ce soir des atteintes à leur dignité, à leur liberté de circuler lors des manifestations. Ces porte-paroles appellent toutes celles, tous ceux qui ont pu être victimes à se faire connaître en vue d'actions judiciaires. On les soupçonne d'avoir dégradé l'Arc de Triomphe le 1er décembre dernier. Deux Gilets jaunes franc-comtois sont mis en examen, l'un d'eux depuis près de 15 jours, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. Originaire du Doubs, c'est lui qui aurait inscrit sur l'édifice le tag « Les Gilets jaunes triompheront ». Le ministère de l'Intérieur invite l'intersyndicale de la police technique et scientifique à une réunion le 8 janvier. Trop tard, fait-elle savoir. Le SNIPAT, syndicat minoritaire, appelle dès demain un mouvement de grève pour demander un nouveau statut, une retraite anticipée, entre autres. Une dizaine de blessés, 600 personnes déplacées en raison de dégâts. C'est le dernier bilan du séisme qui a frappé tôt ce matin une zone toute proche de l'Etna en Sicile. Un volcan en plein réveil est particulièrement scruté ces derniers jours.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Jean-Sébastien Ferjou, un dernier commentaire, j'imagine.
Oui, sur le marché du logement, parce que politiquement, c'est vraiment extrêmement important, alors que personne ne s'en préoccupe vraiment. C'est pourtant ce que vivent les gens tous les jours. Hein. Quand vous levez tous les matins, que vous avez 2 heures de RER à faire parce que vous êtes trop loin de votre travail, ou que vous devez déplier un canapé parce qu'il manque une place à votre logement, c'est ce que vous vivez tous les jours. Et ben, figurez-vous que quand on regarde, le moyen qu'ont trouvé les 1% ou le 0,1%, peu importe, enfin les vrais surgagnants de la mondialisation, pas des classes supérieures, mais vraiment les vrais millionnaires de la mondialisation, le moyen qu'ils ont trouvé de garder les classes moyennes avec elles, ben c'est par le biais du logement. Ils les gardent otages comme ça, parce que quand vous êtes un cas de chup dans une grande ville, que vous avez investi et que votre appartement il vous a coûté 1 ou 2 millions d'euros, et ben vous avez intérêt à entretenir cette espèce de pénurie qui existe pour pas voir votre effet patrimoine se réduire. Donc c'est un vrai piège politique, et justement on n'y pense pas assez. mais on devrait en parler beaucoup plus souvent.
Allez, commentaire donc de Jean-Sébastien Ferjou. 1 781 019 signataires, c'était à 18h20. Faut être précis, hein. L'affaire du siècle porte bien son nom. La pétition en ligne portée par les 4 ONG, Oxfam, Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace et Notre Affaire à Tous, l'association, eh bien, elle fait un carton. Le principe, hein, les ONG vont attaquer l'État en justice s'il ne respecte pas ses engagements dans la lutte contre le dérèglement climatique. L'ultimatum court pendant 2 mois. Ce n'est pas à des juges de forcer le gouvernement à réagir ce matin. François de Rugy, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, ministre de la Transition énergétique écologique, il s'est dit quand même agréablement surpris par le succès de la pétition. Invité de France Info ce matin, l'eurodéputé Geoffroy Didier, secrétaire général délégué de LR, annonce avoir signé, lui, la pétition.
J'ai signé cette pétition parce que je crois que nous avons arraché l'accord de Paris et que cela nous oblige. Il faut responsabiliser l'État qui n'en fait pas suffisamment. Et ce cri d'alerte de ces 1,8 million de citoyens qui ont signé cette pétition de 4 ONG, c'est celui précisément du décalage entre la parole et les actes qui doit cesser au plus vite et qui s'impose là aussi en matière écologique. Regardez, exemple, les émissions de gaz à effet de serre. Dans l'accord de Paris, elles devaient diminuer de 40% d'ici à 2030. Résultat, elles ont encore augmenté en 2016 et en 2017.
Thomas Clé, on peut attaquer l'État ? Là-dessus.
Heureusement qu'on peut attaquer l'État.
Et là-dessus.
Je vais répondre à votre question, mais c'est vrai que la déclaration du ministre est étonnante. Oui, la justice peut condamner l'État. Heureusement que lorsque l'État ne respecte pas ses obligations ou se comporte mal, on peut l'attaquer. Ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est d'abord qu'effectivement, ça dépasse une fois de plus les cadres classiques et les cadres traditionnels de l'action politique. Et en cela, c'est vrai qu'Internet donne une force décuplée aux pétitions. Une pétition comme celle-ci n'aurait jamais fait 2 millions de signataires si on n'avait pas eu Internet, c'est évident. Et puis, deuxième commentaire, d'un point de vue cette fois-ci juridique, un État, il a des obligations. Il a des obligations à l'égard des autres États. Et lorsqu'un État ne respecte pas ses obligations à l'égard des autres États, il peut être attaqué par un autre État devant une juridiction internationale. Mais il a aussi des obligations vis-à-vis de ses citoyens. On a un exemple d'ailleurs. Aux Pays-Bas, il y a une association qui a attaqué pour les mêmes raisons le gouvernement néerlandais de manquement sur la transition.
Donc vous dites quoi ce soir ? C'est une bonne chose, cette pétition, avec cette menace de poursuivre
les engagements internationaux si on engagements internationaux si on ne les respecte
d'accord.
pas
Donc vous validez la démarche.
En tout cas, je trouve intéressant l'idée que l'État est comptable de ses engagements internationaux auprès de ses propres citoyens. Je trouve ça, d'un point de vue juridique, intéressant. On verra ce que dit le tribunal administratif. Oui. Mais en plus, et j'ajoute, parce que c'est intéressant dans la démarche, pour faire court, pardonnez-moi Jean-François, que là où la démarche est intéressante, c'est qu'ils ont donné 2 mois à l'État pour répondre avant de dire on va vous attaquer. Donc il se comporte exactement comme l'État fait lui-même à l'égard des citoyens.
Alors Christophe Gascard, vous partagez ce point de vue et qu'est-ce que ça renseigne 1,8 million hein,
mais ce que je trouve finalement assez intéressant dans ces signatures, c'est quand même beaucoup de signatures, c'est qu'à la fois le ministre de la Transition écologique trouve cela intéressant et si on se place d'un point de vue de l'État, effectivement c'est intéressant parce que il y a une forme de paradoxe. Les gilets jaunes c'est quand même l'État qui voulait taxer à un moment pour effectivement mettre de l'argent pour le climat, pour respecter ces accords de Paris.
Pour respecter ses engagements budgétaires vis-à-vis de Bruxelles, c'est ce qu'il a envoyé dans les notes à Bruxelles.
Mais à la base, c'était quand même aussi, on peut quand même le signaler et le dire, et c'est
important. Côté marketing, c'était l'habillage de la mesure, mais le sens profond de la mesure n'était pas celui-là.
Il y avait quand même cette volonté. Alors quand effectivement l'État fait une démarche d'augmenter les taxes pour dire on va engager ça sur le climat. Et 2 mois après, on a finalement une grande 1 million de personnes, près de 2 millions de personnes qui signent cette pétition. C'est assez intéressant pour l'État. Ils disent, mais allez-y, continuez, signez. Parce qu'effectivement, on peut pas dire. C'est facile pour l'opposition, pour les Républicains, de dire que le chef de l'État ne fait rien. Et c'est quand même, quoi qu'on en pense, et je ne suis pas forcément un macroniste, loin de là. Je reste dans ma position de journaliste, c'est-à-dire assez neutre. Ouais. Le président Macron a toujours défendu Make Our Planet Great Again. C'est quand même lui, c'est le seul dirigeant du monde qui a quand même osé affronter clairement le président Trump. C'était pas évident d'un point de vue diplomatique.
Justement, c'est les mots pour gérer l'histoire de la planète.
Attendez. Qui commence
les mots, les actions.
Caroline Hardy. Bah oui, Caroline Hardy.
Oui, mais a priori, je pense qu'on va se compléter tous les deux. Je suis complètement d'accord. Make our planet great again.
Ce sont des
superbes paroles, mais ce n'est qu'un effet paillette. C'est comme le Climate for Change, c'est comme le grand discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'est positionné et il a mis un point d'honneur à créer ce costume de président nouveau qui allait prendre la défense, et c'est très bien, de ce sujet que continue le combat contre le réchauffement climatique. Fine. Cela, c'est un retournement, un retour en boomerang de cet échec en termes de communication. Il a voulu se positionner sur ce sujet. Force est de constater qu'il n'a pas réussi.
Jean-Sébastien Ferjou, dans la démarche, il y a un petit côté, j'allais dire gilet jaune, presque, finalement, parce que c'est une...
Gilet vert.
Alors, gilet vert, pour le coup. Bien joué, Thomas Kuhl.
Merci, Jean-François.
Bien fait de vous inviter, vous, tiens. C'est parti pour les gilets verts. Donc, disais-je, il y a une pétition qui rencontre un vif succès. Je rappelle que l'autre pétition, celle de Priscilla Ludowski, c'est 1 172 000 signataires. Elle était partie avant l'été, mais ça fait du monde. Est-ce à dire que nous sommes face à un nouveau mode d'expression populaire aujourd'hui, bientôt peut-être un référendum d'initiative citoyenne si d'aventure ça va au bout. Est-ce qu'il y a une forme de changement dans l'expression populaire aujourd'hui ?
Bien sûr qu'on voit qu'il y a un changement dans l'expression populaire, mais je pense qu'il faut distinguer le moyen de la pétition et le fait d'attaquer l'État en justice. Ce sont deux choses très différentes. On peut faire une pétition pour justement montrer qu'un certain nombre de citoyens se mobilisent sur une cause. Ça n'a rien à voir avec attaquer l'État en justice. Et là-dessus, moi, j'ai envie de vous citer Bossuet. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils s'hérissent les causes. Parce qu'on peut pas à la fois se désoler que la démocratie fonctionne mal et en permanence entraver la démocratie parce que on sort du champ du débat démocratique un ensemble de normes ou de débats qu'on voudrait finalement privatiser parce qu'un certain nombre de citoyens, alors peu importe que ce soit la pétition de Priscilla, je ne sais plus son nom, Ludowski, ou la pétition pour l'affaire du siècle sur le climat, vous voyez bien ce à quoi ça aboutit. La démocratie, c'est une majorité avec des gens qui votent. Alors bien sûr, la démocratie, c'est aussi le fait de respecter un état de droit, de respecter les règles qui ont été décidées par un état et de respecter les droits des minorités. Mais quand même, en n'arrêtant pas de judiciariser tout, on arrive dans une situation qui est exactement une situation similaire à ce qui se passe aux États-Unis, où le politique devient impuissant parce que l'espace qui lui reste réellement pour agir, sur le fond, mais l'État s'est bien piégé parce que les accords qu'il a signés sont complètement stupides. Même les plus grands experts du GIEC vous disent que personne n'est capable de dire quel sera l'impact des mesures décidées par les accords de Paris.
Je veux bien prendre la parole, mais
allez-y, Thomas Clé.
Non, je pense que justement, ce qui est intéressant par rapport au discours sur la démocratie, c'est que là, au fond, on a deux illustrations. La première, c'est que précisément quand on saisit la justice, on est dans le canal démocratique et on est dans l'utilisation des institutions de la démocratie. La justice en fait partie, c'est un des piliers de la démocratie. C'est exactement le contraire de ce qu'ont fait les Gilets jaunes, qui précisément, eux, sont allés... le manifester est un droit, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'ils ont agi, c'est pas en utilisant les cadres de la démocratie. Et puis, deuxième observation, vous avez raison, ça préfigure le référendum d'initiative citoyenne, évidemment. Alors, bien sûr, c'est une demande de condamnation, c'est pas pareil qu'une demande de loi ou de votation. Oui, oui. Mais enfin, ça veut dire qu'Internet sera le support de ces pétitions en faveur de ces référendums d'initiative citoyenne.
Allez, on va parler de grands débats dans une seconde, 20h59 sur France Info. Dernier appel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Un miracle en Savoie, un garçon de 12 ans emporté par une avalanche aujourd'hui à La Plagne a été retrouvé vivant. Il a passé près d'une heure sous la neige. Un chien des secouristes a permis de le retrouver. L'adolescent est hospitalisé dans un état stable. Des peines allant jusqu'à un an de prison pour 4 personnes soupçonnées de violence sur le directeur de la police dans la Drôme. C'était lors d'une manifestation des Gilets jaunes le 8 décembre. Ce commissaire divisionnaire avait été roué de coups au sol. Les deux hommes interpellés ce matin à l'aéroport de Roissy sont libres, ils ne seront pas poursuivis. Ce matin, ils ont semé la panique après que l'un d'eux a sorti un FAMAS factice à un fusil à billes qu'il portait pour Noël. L'arme a provoqué un mouvement de panique pendant 3 quarts d'heure. Comme ces 5 dernières années, les festivités pour le passage à 2019 se tiendront à Paris sur les Champs-Élysées. Rendez-vous dès 23h20 sur l'avenue pour un spectacle avant un feu d'artifice dès minuit.
France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Référendum, pétition, consultation. Gilles Legendre, le patron des députés de La République En Marche à l'Assemblée nationale, eh bien, a enregistré ses traditionnels vœux de Noël. C'était dans la rue, à Paris. Et le patron du groupe LAREM attend du débat national qu'il permette peut-être une sortie de crise.
Les Français ont besoin de s'unir autour des réformes qui vont transformer leur vie quotidienne. C'est l'objet du grand débat national qui a été lancé par Emmanuel Macron, le président de la République, et qui va se dérouler dans les tout prochains jours, au tout début du mois de janvier. Tous les sujets vont être abordés au cours de ce débat. La fiscalité, essentielle pour plus de justice et plus de compétitivité. L'accès aux services publics, qui sont de très grande qualité en France, mais qui doivent encore s'améliorer.
Christophe Gascard, il a raison d'être optimiste, le fameux député Gilles Legendre, à l'endroit du grand débat qui arrive.
Ce sont des vœux, donc des vœux, c'est fait pour être écouté. Est-ce qu'ils vont être entendus, ça reste encore la grande question. Moi, ça me fait toujours doucement rigoler, en fait, quand j'entends ces vœux, que ce soit ceux-là, ceux des politiques, parce que de toute façon, ils y vont tous. Hein. Aujourd'hui, c'est facile, avec un smartphone, on publie tous des vœux. Pour moi, cela reste encore toujours des grands mots. Je reste assez dubitatif sur ce grand débat qui va s'organiser, sur la méthode, sur la manière dont ça va se créer. J'étais encore la semaine dernière à l'Élysée et on nous en parlait en off sur la manière dont cela va se faire. Il n'y a pas forcément un cadre très précis, justement. Et c'est aussi la volonté de La République En Marche, de pas forcément de faire quelque chose de figé. Donc on va voir. Moi, je vais rester en tant que journaliste, spectateur de ce débat. Mais je reste dubitatif.
Caroline Hardy, vous êtes également dubitative comme Christophe Gascard,
oui,
au sujet du grand débat.
On s'interrogeait tout à l'heure sur le fait que est-ce que l'affaire Benalla allait boucler la boucle de l'épisode malheureux d'Emmanuel Macron. Je pense que non. La deuxième phase du grand débat national va remettre une pièce dans la machine de façon magique. C'est le principe de la démocratie participative. On a des grandes assises, on écoute tout le monde, ce qui ensuite est un très bon moyen de décider de ce que l'on veut. On part simplement du principe qu'on a écouté les citoyens, puis ensuite on décide, et puis ensuite les Français disposent. Donc je pense que non, l'épisode n'est pas terminé. Ensuite là, je suis d'accord, ce ne sont que des vœux. C'est normalement un rituel durant lequel les politiques enterrent la hache de guerre pour plutôt favoriser l'apaisement et un discours de sérénité. Là, si vous avez regardé les vœux de la droite et de l'extrême droite, ce sont des messages politiques. Ils ont mis les deux pieds dedans. Non, l'exercice n'est pas terminé.
Avant de refermer les informés, je vais vous demander votre avis sur le débat également à tous les deux messieurs. D'abord, Gilles Legendre, puisque c'est dans l'actualité ce soir, a eu cette réaction, le patron du groupe La République En Marche de l'Assemblée nationale. Il se désolidarise du député marcheur Joachim Sanforger, que Gilles Legendre accuse de sexisme et de vulgarité. Le député marcheur élu dans la circonscription des Français de l'étranger s'en était pris sur Twitter à la sénatrice verte Esther Benbassa, la renvoyant à son pot de maquillage pour avoir critiqué Brigitte Macron. Thomas Clay, qu'est-ce que cela dit ? Que signifie cette histoire ? Encore des exploits de M. Joachim Sanforger ? Est-ce qu'il faut exclure ce député ?
Ça dit surtout que M. Legendre est meilleur dans la réaction que dans les vœux. Parce qu'effectivement, il a bien raison de s'en prendre à ce député qui a des propos par tweet sexistes, inacceptables, en réalité. Ce qui montre aussi d'ailleurs la faiblesse du recrutement politique de tous ces députés qui manquaient d'expérience. Et lui, en plus, manifestement, si on croit son dernier tweet de ce soir, n'est pas prêt à faire amende honorable, puisque lorsque le nouveau délégué général de La République En Marche a dit qu'il allait lui écrire, etc., il a répondu: je tremble, de manière ironique. Donc ça montre bien qu'il y a un problème de recrutement politique. Et d'ailleurs, dans le dispositif politique de Macron, Jean-Sébastien Ferjou le dit suffisamment, il y a des carences. C'est évident qu'il y a des carences dans ce dispositif politique. Et là, on en a une illustration. Et pour revenir sur les vœux, puisqu'on a eu les deux séquences ou les deux expressions de Gilles Legendre, un exercice comme ce qu'on vient de voir assez longuement, là, trop longuement, c'est un exercice certes rituel, mais qui me semble parfaitement désuet et même un brin ridicule, faut bien le dire.
Jean-Sébastien Ferjou, sur les vœux, vous trouvez ça désuet et ridicule comme Thomas Clay ?
Soyez franc.
Ça ne me choque pas que...
Alors, il y avait du contenu, puisqu'il évoquait notamment le grand débat, tout de même. Il y avait du sens, non ? Parce que l'espérance que ce grand débat vienne au fond apaiser
les
conflits.
En tout cas, je pense que M. Legendre est sincère. On peut lui faire ce crédit-là. Ouais. Après, sur le fond de ce qu'il souhaite ou de ce qu'il appelle de ses vœux, j'aimerais que ses vœux soient entendus aussi. Mais malheureusement, je pense que c'est trop ou trop peu le dispositif qu'a choisi le gouvernement et que ça va lui revenir dans un effet boomerang dramatique. Parce que soit vous associez les citoyens à la construction de quelque chose, et là, ça n'est plus du tout le même mécanisme ni psychologique ni politique que demander aux gens ce qu'ils veulent, vous leur demandez pas ce qu'ils veulent, vous leur dites là on est tout un groupe de gens qui n'avons pas nécessairement les mêmes intérêts et comment faisons-nous pour essayer de reconstruire quelque chose, soit dit en passant c'est pas en attaquant l'État ni en faisant des référendums dans tous les sens qu'on y arrivera mieux non plus, mais précisément on est en train de renoncer profondément aux politiques et c'est une forme de renoncement aux politiques aussi que ce grand débat national, parce que débattre de tout et de n'importe quoi sans que ça ne puisse déboucher sur quelque chose de construit, c'est, je pense, prendre un risque politique très grave.
Et cela génère surtout des frustrations, parce que dans un débat, on a envie de s'exprimer, on a envie de dire des choses, et le principe même de la démocratie, c'est qu'à la fin, il faut trancher, et c'est ça là, aussi le débat démocratique. Donc on génère des frustrations, et moi, ça m'inquiète.
Allez, la une d'Atlantico.fr demain matin, Jean-Sébastien Ferjou.
On revient sur Alexandre Benalla, Emmanuel Macron, justement, et ce syndrome des enfants gâtés.
Allez, merci à tous les quatre, Caroline Hardy, Christophe Gascard, Jean-Sébastien Ferjou, Thomas Clay, d'avoir été les invités des Informés de France Info. Pour ma part, je vous retrouve demain soir pour une toute nouvelle édition. Bonne soirée.